l'actualité, la culture, l'histoire, l'économie. Découvrez la Corée sous tous les angles sur KBS World Radio.
Séoul, au jour le jour. Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition de Séoul au jour le jour. Le mois dernier, le taux d'augmentation des prix à la consommation en Corée du Sud a enregistré 6%. Il s'agit de la croissance la plus importante depuis 23 ans. Les prix des plats proposés dans les restaurants ont également augmenté de 8%, soit le niveau le plus élevé depuis 1992. Dans ce contexte, les jeunes qui ne sont pas financièrement aisés ont tendance à diminuer le nombre de rendez-vous pour éviter de dépenser de l'argent. Yi est un étudiant âgé de 23 ans. Normalement, il a environ 3 rendez-vous avec des amis par semaine. Mais ces derniers temps, il essaie de baisser ce nombre à 1 par semaine. Car pour manger dans un restaurant avec quelques amis, le prix des repas dépasse des dizaines d'euros. Comme cela pèse lourd sur son portefeuille, il évite ces occasions. Les salariés qui gagnent de l'argent ne sont pas non plus épargnés par un tel souci. Kim, âgé de 30 ans, est employé dans une entreprise à Séoul. Alors que les règles de distanciation sociale ont été supprimées, elle n'ose pas rencontrer ses amis à cause de l'envolée des prix à la consommation. Quand elle a un rendez-vous le soir avec des connaissances, elle se sent mal à l'aise de proposer d'aller manger quelque chose de bon marché. Alors, elle préfère réduire les sorties. L'augmentation générale des prix pousse même les jeunes à hésiter à avoir une relation amoureuse. Park est l'un d'entre eux. Ce célibataire, âgé de 30 ans, est un salarié qui habite dans la capitale. Certaines de ses connaissances lui proposent de lui présenter une femme, mais elle n'a pas envie d'accepter, car quand il a ce type de rendez-vous dans un restaurant, il faut dépenser plus de 100 000 won, soit 75 euros. Comme il évite ce genre d'occasion, il devient d'autant plus difficile de rencontrer quelqu'un. En effet, selon un sondage effectué auprès de célibataires de 25 à 29 ans, ils dépensent en moyenne 60 euros pour une sortie en amoureux. Et 20% des interrogés ont répondu qu'ils avaient déjà eu des conflits avec leurs copains ou copines au sujet des dépenses liées à leur rendez-vous. Par ailleurs, ceux qui ont du mal à réduire le nombre de réunions entre amis ou de rendez-vous galants se serrent la ceinture pour minimiser leurs dépenses quotidiennes. C'est le cas de Im. Pour les rencontres avec ses amis le week-end, cet employé d'entreprise de 30 ans dépense 3 à 4 fois plus que sur une semaine. Comme il considère que les relations humaines sont très importantes, il n'a pas envie de diminuer le nombre de ses sorties. De ce fait, les jours de la semaine, il prépare un panier repas pour le déjeuner et ne boit que du café gratuit mis à la disposition du personnel dans son bureau. Dans un magasin d'une grande chaîne de café située à Séoul, sur un côté du mur de la boutique sont entassés divers produits dérivés tels que des gobelets, des sacs, des pailles à usage multiple, des parapluies entre autres. Sur l'autre côté est placée une affiche portant cette inscription. Veuillez participer à la diminution de l'utilisation de plastique en employant des pailles en papier et des bâtonnets en bois. Face à ce type de produits dérivés, de nombreux clients se montrent sceptiques. Indiquant que ceux-là sont généralement faits de plastique, ils soulignent qu'il faut arrêter de fabriquer ce genre d'articles pour protéger réellement l'environnement. Dernièrement, les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance des entreprises sont devenus importants. Et de plus en plus de consommateurs ont tendance à acheter des produits respectueux de l'environnement, même s'ils sont plus chers. Dans ce contexte, bien des firmes adoptent une stratégie marketing axée sur l'écologie. Cependant, beaucoup d'entre elles continuent de lancer à chaque saison des produits dérivés diversifiés. Certains consommateurs qualifient cette pratique d'éco-blanchiment typique. Il juge que les entreprises se donnent une image trompeuse de responsabilité écologique, alors qu'en réalité, elles fabriquent des articles qui ne sont pas vraiment nécessaires et incitent les gens à les acheter. Le secteur qui est en tête de cette pratique est les chaînes de franchises de café. Elles mènent parfois des campagnes écologiques en offrant comme cadeau ou en vendant des produits dérivés. Ces derniers sont fabriqués à partir de plastique difficilement recyclable. Les gobelets en plastique sont les articles les plus banalisés. Pour avoir un effet positif pour l'environnement, ceux dans cette matière doivent être utilisés au moins 50 fois et ceux en inox au moins 220 fois. Les librairies en ligne et hors ligne fabriquent également un grand nombre de produits dérivés. Si on achète des livres en payant une somme supérieure à une certaine limite, on peut en recevoir comme cadeau ou en acquérir à petit prix. Ces articles sont très variés. Sacs en toile, gobelets, couvertures en laine, ombrelles, ballons de plage, etc. Même s'ils reçoivent gratuitement ce type de marchandises, les clients n'en sont pas toujours contents. Che, par exemple, a reçu comme cadeau un sac en toile. Selon lui, si une personne utilise un sac en toile toute sa vie, cela pourrait être bénéfique pour l'environnement. Mais ce n'est pas le cas. Lui, il en a déjà des dizaines et il espère que les librairies ne confectionneront plus de produits dérivés. Les experts affirment que ce qui est le mieux, c'est de ne pas les fabriquer pour ne pas les jeter. Si on a acheté ce type d'articles, non pas parce qu'ils sont nécessaires, mais parce qu'on est incité par le marketing des entreprises, cette consommation n'a pas de sens ni d'utilité, même s'ils sont écologiques. Et voilà, prenons une petite pause musicale avec la chanson de G-Friend, Nae Chiguru Jikyojo, s'il te plaît, sauve ma planète.
Vous avez aimé, vous avez détesté, vous avez adoré. Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french@kbs.co.kr.
Pour cette édition de Séoul le jour du mercredi 3 août, vous êtes en compagnie de Koo Jang-san. Les entreprises agroalimentaires sud-coréennes se lancent activement sur le marché des substituts de viande, considérés comme de nouveaux produits alimentaires prometteurs. Elles consacrent leurs efforts pour mettre au point des nouvelles marchandises et pénétrer les marchés étrangers. Les viandes de substitution ciblaient autrefois une partie des consommateurs, comme les végétariens. Avec un goût amélioré, elles sont désormais considérées comme des aliments sains et enregistrent une croissance rapide tant au pays du matin clair qu'à l'étranger. De ce fait, une grande entreprise agroalimentaire a ouvert une épicerie fine spécialisée dans les viandes végétales qui propose aussi des sandwichs et des salades faits de ce type de produits. Une autre firme du même secteur s'est également focalisée sur les succès d'années de viande. Elle a lancé une marque spécialisée dans les aliments à base de végétaux pour présenter des plats prêts à consommer. Elle a pour but de réaliser un chiffre d'affaires de 150 millions d'euros d'ici 2025, dont 70% sur les marchés étrangers. Beaucoup de consommateurs ne sont pas encore familiers avec ce genre de viande. C'est pourquoi les compagnies du secteur prennent des initiatives afin de leur permettre de déguster ces produits et d'agrandir le marché. À ces fins, elles ouvrent des restaurants végétariens pour proposer des plats à base de viande de substitution. Si ces entreprises élargissent leur business à ce marché, c'est parce que ce dernier se développe rapidement. De plus en plus de consommateurs qui ne sont pas végétariens s'intéressent à l'alimentation saine et au bien-être des animaux et optent pour ce type d'article. En Corée du Sud, le nombre de végétariens est estimé à 1,5 million. Un autre facteur de la croissance du marché est la perturbation de l'offre de la viande pendant la crise sanitaire. Selon la compagnie coréenne du commerce agricole et halieutique et des aliments, Le volume du marché des substituts de viande devrait passer de 19 millions d'euros cette année à 22 millions en 2025. D'après les spécialistes, la jeune génération qui est plus sensible au goût, à la nutrition et au régime diététique apprécie ces produits. Étant donné que ces derniers sont faits d'ingrédients 100% végétaux, il est possible de les exporter aux pays qui ne consomment pas de porc ou de bœuf. Le mois dernier, le code de la route qui renforce l'obligation de protection des piétons est entré en vigueur. Parmi les piétons, ceux qui nécessitent la plus grande considération sont les enfants. De ce fait, les autorités compétentes continuent de mettre en place plusieurs dispositions pour les protéger, comme l'interdiction de stationnement dans les zones de protection des enfants ou l'arrêt au passage piéton. Dans ce cadre, l'Agence nationale de la police a annoncé un projet pilote pour prévenir les accidents de la route des enfants. Il s'agit de changer la couleur des passages cloutés qui sont blancs en jaune dans les espaces de protection des enfants. Son objectif est de permettre aux conducteurs de reconnaître plus clairement ces endroits. Cette mesure est prise dans plusieurs pays. Par exemple, la Suisse enregistre le plus faible nombre des morts sur la route parmi les pays membres de l'OCDE. Dans ce pays, tous les passages piétons sont peints en jaune. Aux États-Unis, ceux dans les périmètres de protection des enfants sont de couleur jaune. Ce projet sera mené par les agences régionales de la police de sept villes et provinces que sont Daegu, Incheon, la province de Gyeonggi, Gangwon et les provinces de Chungcheong du Nord, de Jeolla du Sud et de Gyeongsang du Sud. En coopération avec les collectivités locales concernées, elles mettront en place des passages cloutés de couleur jaune dans 12 zones de protection des enfants. Elles examineront pendant 3 mois leur visibilité et leur efficacité. L'Agence nationale et le service de la circulation routière vont analyser le taux de véhicules qui respectent l'arrêt au passage clouté et celui des piétons qui respectent les règles de circulation sur le passage. Selon l'organisme national, les passages cloutés sont les seuls espaces sur les routes où la sécurité des piétons est garantie. Cependant, il arrive souvent qu'ils se sentent menacés en les traversant. Dans ce contexte, il s'attend à ce que les conducteurs prennent conscience plus nettement de l'étendue des lieux de protection des enfants à travers ces passages peints en jaune. L'agence prévoit également d'élargir l'exploitation d'essais des zones jaunes à stationnement interdit qui se déroulent actuellement dans la capitale et dans la province de Chungcheong du Nord à toutes les régions. Ces périmètres ont pour but d'empêcher les voitures de traverser les passages cloutés en suivant leur véhicule de devant, tandis que le feu est devenu rouge. Leur couleur est généralement blanc, mais dans les espaces d'essai, ils seront peints en jaune. Eh bien, avant de passer à l'article suivant, je vous propose d'écouter une chanson de Kim Dong-nul intitulée « Aïcharam, comme un enfant ».
사랑한다 말하고 받아줄 때에 더 이상 나는 바랄 게 없다고 자신 있게 말해놓고 자라나는 욕심에 무한해지지만
En Corée du Sud, le nombre de personnes âgées de plus de 65 ans dépasse 8 millions et représente 17% de la population. Par conséquent, le bien-être des seniors est devenu un enjeu important sur le plan social et économique. Dans ce contexte, le gouvernement a lancé un projet d'emploi pour les individus du troisième âge. Son objectif est de résoudre le problème de leur pauvreté et d'améliorer leur qualité de vie. Il s'agit d'offrir des emplois à ceux qui ont la capacité et la motivation pour travailler afin qu'ils puissent mener une vie plus dynamique tout en gagnant de l'argent. Che, âgé de 75 ans, habite dans l'arrondissement de Gwanak à Séoul. Il participe à ce projet depuis 2 ans. Après sa retraite, il n'avait pas de revenus pendant 2 ans. Alors, il a cherché un emploi et en a trouvé un dans le centre pour seniors de son arrondissement. Son travail consiste à livrer des paniers repas aux personnes âgées défavorisées. Il travaille 12 heures par jour et 15 jours par mois. Il gagne ainsi 200 euros mensuellement. À 9h du matin, Che prend 3 paniers repas dans le centre pour seniors et part pour les livrer. Après les avoir donnés, il ne quitte pas tout de suite les bénéficiaires âgés qui habitent seuls. Il leur pose des questions sur leur santé et discute avec eux pendant un certain temps. Son temps de travail est fixé à 2 heures, mais il dépasse souvent cette durée. Kim est aussi l'une des participantes du projet d'emploi. Âgée de 79 ans, elle travaille dans une laverie située dans le complexe d'habitation où elle vit. Tous ses collègues sont aussi des voisins, âgés de plus de 65 ans. Chaque équipe de 4 personnes lave gratuitement des couvertures et des rideaux des habitants du complexe. Normalement, ces derniers y apportent leur linge. Mais pour les personnes âgées qui ont du mal à se déplacer, le personnel de la laverie se rend directement chez eux pour récupérer le linge. Kim travaille de 13h à 17h pour gagner 200 euros par mois. Selon les spécialistes, ce type d'emploi a un effet positif au niveau de l'assistance aux activités sociales des seniors. En particulier, étant donné que ces travailleurs sont aussi âgés, ils comprennent bien la situation et l'état d'âme des bénéficiaires de leurs services. À Changwon, dans la province Gyeongsang du Sud, il y a une salle de mariage très célèbre. Elle s'est fait connaître davantage quand son directeur général, Baek Nak-sam, a fait son apparition dans une émission de télévision populaire l'an dernier. Depuis 1967, Baek et sa femme, Choi Pil-sun, ont organisé des cérémonies de mariage gratuites pour des couples qui rencontrent des difficultés financières. Jusqu'à maintenant, plus de 14 000 couples ont bénéficié de cette bienfaisance. Baek, qui était photographe, a commencé par gérer un studio photo. Plus tard, il a ouvert une salle de mariage pour aider ceux qui ne pouvaient pas célébrer leur union faute d'argent, car Baek lui-même avait dû reporter sa cérémonie pour des raisons financières. Au début, pour un mariage, il ne recevait que 6 000 won, soit environ 5 euros pour les frais de photo. Du coup, dans les années 80 et 90, des couples ont afflué dans son établissement pour célébrer tardivement leur cérémonie de mariage. Parfois, dans cette salle, 17 cérémonies ont eu lieu par jour. Maintenant, chaque couple paie environ 520 euros pour une cérémonie et tous les services nécessaires, y compris les tenues et la photo. Or, il y a 3 mois, Baek, âgé de 90 ans, a été victime d'une hémorragie cérébrale. Il est maintenant hospitalisé. Ainsi, à présent, c'est Che qui est en charge de la structure. Selon elle, l'état de son mari s'améliore, mais il sera difficile qu'il se rétablisse comme avant. Pour Che, âgé de 81 ans, ce n'est pas facile de tenir l'établissement seul, mais elle ne peut pas l'arrêter, car son mari et elle l'ont fait ensemble toute leur vie et il y a toujours des couples qui ont besoin de leur salle. Pour les aider, leur fils est venu remplacer son père. Comme il gère sa propre activité commerciale, il n'est pas complètement disponible. Cependant, il sait bien que ses parents ont consacré plus de 50 ans pour leur salle et leur bonne action. Il est donc déterminé à faire de son mieux pour maintenir cette structure. Et voilà, c'est le moment de retrouver Tout un cinéma présenté par Antoine Coppola. Avant de le rejoindre, je vous propose d'écouter la chanson de Isora, Changwon, Demande en mariage.
Bonjour à toutes et à tous. Nous commençons une série estivale autour de grands classiques des années 1970-80. Pollen of Flowers est un film légendaire de 1972 signé à Gijeon. Entre le Pasolini de Théo Rema et le Kim Ki-young de The Housemaid, cette histoire de maître de maison tyrannique vivant entre sa maîtresse, jouée par la star Chi-ji, la fille de celle-ci et son jeune secrétaire, a été étrayée par la censure dictatoriale. Une version, enfin, recomposée existe aujourd'hui, même s'il faut patienter sur les 20 premières minutes. Voyons ce qu'il en est. Pour son premier film après UCLA, Ha Gijeon fait fort. Les producteurs de Kota Quickies, film à petit budget vite tourné, ont probablement cru à un projet de film érotique, aka film d'hôtesse, qui pullulait à l'époque. Disons-le, Pollen of Flowers est souvent catalogué comme premier film coréen à évoquer l'homosexualité entre hommes et la bisexualité. Mais cela va plus loin, dans la métaphore psychosociale de l'asservissement des hommes comme des femmes, objectisés mentalement et physiquement par le pouvoir traditionnel. La jeune Miran, jouée par une Yoon So-ra au profil raphaélien, a rapproché de l'actrice Moon Suk, précise secrétaire donc esclave, au jeune Efeb Danju, joué par Ha Myung-jung, qui, par métonymie, se fait écraser comme le poisson rouge empoigné par le maître jaloux dans son aquarium. Danju rit pourtant presque à l'unisson des maîtres quand Miran a ses premières règles. Symbolique car très tardive, elle signale le rejet de la féminité par la tradition. Cette dernière, à travers les maîtres et la grisaille dans laquelle semble plonger le pays, refusera à Danju et Miran leur histoire d'amour moderne. L'annonce du suicide d'autres jeunes amants stigmatise la chose. Cette critique de la tradition réfute la réception locale qui a souvent vu là une dénonciation de la décadence liée à l'occidentalisation. Certes, à travers les TV, frigo, piano et lit, le film note l'occidentalisation du Hanok, des maîtres, mais sans plus. Le film est truffé de références cinéphiliques. L'escapade des amants au crépuscule sur la plage et leur poursuite par le maître soudain jaloux, joué par Nam Kun-woon, résonnent de « Un homme et une femme ». Kim Ki-young est présent avec les rouges psychédéliques de certaines scènes et l'usage de rats par la servante pour titiller ses maîtres. L'homme en fait une crise d'hystérie en plein ébat érotique. L'intrigue pasolinienne s'immisce peu à peu, surtout lorsque les trois femmes partent en quête de Danju, battues et enfermées dans une cave par le maître. Elles constatent son absence, mais aussi le fait qu'elles sont toutes là, et le film les laisse longuement se regarder, silencieuses, tandis que les notes sifflantes d'un orgue hantent la scène. Ha Gijeon fait un film stylisé. La musique d'abord dans l'emploi surprend, du jazz aérien dans la scène entre Danju et Miran pour la première fois dans une chambre. Un montage séquence muet de disputes entre le quatuor sur une musique moderne. La soirée finale où les bourgeois titillent la servante sur une musique décalée de guitare psychédélique, sombre et différente de celle qu'on imagine danser par les convives. Des échos de voix distordues, de haut-parleurs, dans la gare où Danju cherche Miran, etc. La recherche d'une poétique visuelle est aussi claire lors des scènes de pluie où les amants errent dans les grises friches urbaines avant de se réfugier dans la cabine d'une pelle mécanique. Tout un symbole du pays à l'époque. Le filmage au zoom des rues laborieuses et grises alterne avec du David Hamilton pour des flous et brillances, des couleurs fanées qui s'intensifient vers la fin. Enfin, des scènes fortes, formellement et provocatrices dans le contenu, charpentent le film. La poursuite en montage alterné sur la plage entre Danju à pied et son maître jaloux en voiture, au soleil couchant. En discontinuité avec la course de Danju, le rythme du jeu du conducteur est décalé, comme pour décrire les émotions intérieures et grimaces extérieures du mal blessé dans son orgueil. La scène de l'apparition de Danju devant une maîtresse esselée dans son lit, d'abord récalcitrante, puis étrangement consentante, est l'une des plus osées érotiquement avec la vue, sans dessus-dessous, d'une Chi-ji avide entre les cuisses velues de l'éphèbe, soudain devenue dominateur. La violence du crépage de chignon entre cette même maîtresse et la servante rebelle, elle martèle hystériquement son « dadomi », ainsi que le vampirisme du maître mordant bestialement la nuque du frêle d'Anjou, soudain apparu de sa cave tel un zombie, blafard, au milieu de la soirée bourgeoise, annonce un final aussi tonitruant qu'inattendu. Le film bascule dans l'horreur lorsque les créanciers, les bourgeois fêtards de la veille, débarquent dans le hanok des trois femmes. Le maître, ruiné, s'est volatilisé. Danjou bat la campagne. Pour récupérer l'argent, la maison est pillée avec force marchandage. Dans l'hystérie, les femmes battent la maîtresse, l'amputent d'un doigt pour emporter sa bague et lui arrachent à la pince ses dents en or. Enfin, deux hommes la violent dans une scène godardienne, quasi mimée et conclue par le hoquet de la victime. Il y avait de quoi interloquer les censeurs qui amputèrent largement le film à sa sortie. Mais la réputation d'auteur sulfureux était faite pour Aguiljon, qui devint un peu caricaturalement le symbole de la résistance à la dictature, alors qu'il s'attaquait à bien plus profond.
Voilà, c'est la fin de cette édition de Séoul au jour le jour. C'était Koo Jong-sun avec Kim Hong-ju à la réalisation. Merci d'avoir été avec nous. Excellente soirée à tous.